Chapitre 23. Lorsque Louis se tut, le marquis resta immobile. Puis, par un geste qui lui avait été toujours familier, il se prit la tête entre les deux mains et, pendant plusieurs minutes, il se tint le visage caché. Enfin, il abaissa ses mains et regarda Louis avec des yeux dont l'expression était changée. « Mais alors, dit-il, alors ?»« Alors, mon cousin, vous vous êtes trompé ou vous avez été trompé. Denise, vous le voyez, ne veut pas être religieuse. Cependant, on vous a dit qu'elle voulait l'être et vous l'avez cru. Je n'ai rien cru, j'ai voulu savoir avant de me prononcer. Je l'aurais interrogée déjà si je l'avais trouvée lorsque, pour la voir, je suis allée dès mon arrivée au couvent de Sainte-Rutilie. Mais elle venait d'être envoyée aux eaux de Bagnoles, où elle est confiée aux soins de la sœur Sainte-Ursule. Et c'est là le grand danger. La sœur Sainte-Ursule, demanda le marquis, cherchant les souvenirs qui pouvaient se rapporter à ce nom qu'il avait déjà entendu. En quoi cette sœur peut-elle plus dangereuse qu'une autre? C'est cette sœur Sainte-Ursule qui a joué un rôle si caractéristique dans le miracle de Mademoiselle Pinto-Soulas. Je me souviens maintenant. On disait qu'elle avait été envoyée dans le Midi. Vous comprenez que si on l'a fait revenir et si on l'a placée auprès de Denise, ce n'est pas sans intention. C'est l'intervention de cette folle extatique qui m'épouvante, et c'est quand je l'ai connue que je me suis décidée à agir pour ne pas laisser Denise exposée au contact de cette fille qui devrait être soignée dans une maison de santé. Vous savez que la théomanie est éminemment contagieuse. C'est elle qui a causé tant de ravages dans les cloîtres. C'est elle qui a fait la célébrité des Ursulines de Loudun, des religieuses de Louviers. Une seule extatique comme la sœur Sainte-Ursule peut affoler un couvent. Des livres ont été écrits sur cette forme de délire. Je lisais dernièrement celui du docteur Calmeil qui est effroyable. Denise est pieuse, son âme est ouverte aux sentiments tendres, à la contemplation, à la mélancolie. Elle peut se laisser toucher et voir dans cette sœur une sainte remplie de l'Esprit de Dieu au lieu de la voir telle qu'elle est en réalité, c'est-à-dire malade. Tant qu'elle n'a eu à subir que les obsessions de la supérieure de Sainte-Rutilie ou des autres personnes qui l'entourent, j'ai dû respecter les termes de cette lettre, quoi qu'il m'en coûtât. Mais maintenant, il est évident que, comme on n'a pas pu obtenir par la persuasion ce qu'on espérait, on veut faire violence à sa raison. Je ne peux donc plus me taire. On me disait qu'elle voulait être religieuse. Et vous voyez qu'elle ne veut pas l'être. Oui, oui, je le vois. Elle parle d'efforts qu'on fait pour la pousser vers le cloître. Et elle dit que rien ne pourra changer ses sentiments. Mais qui donc peut la pousser vers le cloître? Dans quel intérêt? Le marquis regarda longuement Louis. Celui-ci détourna les yeux. La question, en effet, était des plus graves. Devait-il révéler à son cousin la vérité telle qu'il la savait, ou plutôt telle qu'il la soupçonnait? Devait-il accuser Clémence? Comment le marquis accueillerait-il une accusation contre sa maîtresse? « Il ne faut pas détourner les yeux, dit le marquis, il faut me répondre franchement. Voyons, Louis, éclaire-moi, mon ami, ce que tu sais, dis-le, je t'en prie. » Ce tutoiement et cette parole affectueuse enlevèrent Louis à son hésitation. Ce n'était plus seulement le tuteur de Denise qu'il avait devant lui, c'était encore celui qu'il s'était habitué à considérer comme un père pendant ses années de jeunesse, son bienfaiteur, son ami. Devait-il, par excès de précaution et de prudence, le laisser aux mains de cette femme ? Quelques jours auparavant, dans une expertise, il s'était trouvé avec le docteur Gillet et, pendant le temps qu'ils avaient passé en voiture, celui-ci lui avait longuement parlé du marquis. Il l'avait fait en homme pratique, en médecin, crûment, en appelant les choses par leur nom, et le résumé de sa consultation avait été que si le marquis n'était pas astreint à un sévère régime et que, s'il se permettait le plus léger excès, il n'en avait pas pour un an à vivre, peut-être même pas pour 6 mois. « Ces jours tiennent à un fil, avait-il dit en concluant, et il dépend des personnes qui l'entourent d'allonger ce fil ou de le raccourcir. Comment M. de Carquebus n'a-t-il pas encore offert quelques centaines de 1000 francs à cette jeune femme pour entrer en possession de Rudemont dans quelques mois ? Louis n'avait pas l'habitude de procéder, dans les choses qui lui étaient personnelles, par la finesse et l'habileté. Il allait au contraire droit devant lui, simplement, loyalement. Son affection pour le marquis étant d'accord avec son caractère, il décida de répondre franchement. « Quel intérêt l'abbé Guillemite peut-il avoir à faire de Denise une religieuse ?» continua le marquis en insistant. « L'intérêt s'attachant à la grosse dot que vous ne manqueriez pas de donner. » Avant de compter sur cette dot, il aurait fallu s'assurer de mon consentement, et je n'ai pas vu l'abbé Guillemite depuis que Denise est au couvent de Sainte-Rutilie. « Ne l'a-t-on pas vu pour vous ?»« Sans doute, j'ai prié Madame Clémence de s'entendre avec lui au moment où j'étais obligée de me séparer de Denise, ce qui m'a coûté beaucoup, mais il le fallait. » Comme Louis ne répliquait rien, le marquis, après un moment de silence, continua. « Eh bien, tu ne veux pas me dire ce que tu sais ?»« Je vous l'ai dit. » Comment cela ? En vous amenant vous-même à nommer la personne qui s'était entendue avec l'abbé Guillemite. Clémence ? Ah, mon ami, tu me fais de la peine en persistant dans ton animadversion contre une personne qui m'est vivement attachée et pour laquelle j'ai la plus grande tendresse. Ce sentiment chez un homme tel que toi m'étonne autant qu'il me désole. C'est lui qui a déjà amené entre nous une brouille déplorable. « N'insiste pas, je te prie. Vous m'avez demandé de vous parler franchement, je l'ai fait. Et moi, je te dis que cette accusation est injuste. Ne te fâche pas si je te dis qu'elle est absurde. Clémence, je te le répète, m'est absolument dévouée. Tu t'en tiens aux sots propos du monde parce que tu ne sais pas la vérité. Eh bien, sache que je lui dois la vie. Sans elle, je serais... Je ne te parlerai pas en ce moment... Et si je reviens à la santé, c'est grâce à ses soins intelligents, à son dévouement, à sa tendresse ingénieuse. C'est la meilleure des femmes, la plus douce, la plus charmante. En un mot, si elle était veuve, je l'épouserais. » C'était bien là ce que Louis avait redouté, une possession complète. Cependant, il n'eut pas l'idée de revenir en arrière. « Tu ne saurais croire, continua le marquis, heureux de parler de sa chère Clémence, jusqu'où va sa tendresse? Je puis dire que je n'ai connu le bonheur que du jour où elle m'a donné cette tendresse. Elle ne me quitte pas d'un instant. Il me semble qu'en ce moment, elle n'est pas ici, dit Louis, interrompant ses litanies. Elle serait là si elle n'avait été obligée de se rendre aux environs de Paris auprès de sa tante mourante, sa seule parente. Louis se recueillit un moment. Puis, parlant avec résolution, « Il m'en coûte de vous blesser dans votre affection, mais je ne peux pas ne pas vous dire qu'on vous trompe. Madame Clémence n'est pas aux environs de Paris, comme vous le croyez. Elle n'est pas auprès de sa tante mourante. Elle est à Bagnoles, auprès de Denise, ou tout au moins auprès de la sœur Sainte-Ursule. »« Encore ? » s'écria le marquis. « Je vous assure !» Et moi, je t'affirme que ce sont là des calomnies dont tu es dupe. Je connais Clémence, elle est incapable de mentir. Et moi, mon cousin, me croyez-vous homme à mentir? Je crois que tu te laisses abuser. Mais ce que je vous dis, je l'ai vu. Le marquis haussa les épaules avec un geste d'impatience et de colère. Je vous affirme que j'ai voyagé cette nuit avec Madame Clémence et que je l'ai quittée à 10 heures du soir au relais de l'ermitière, elle continuant sa route, moi revenant à Condé. Était-elle sur le chemin de Paris alors qu'elle lui tournait le dos? L'ermitière? Plusieurs fois le marquis répéta ce nom comme s'il avait besoin de se le faire entrer dans la tête. Il paraissait démonté, chancelant, étourdi. Ces paroles de Louis, arrivant après la lettre de Denise, le soumettaient à une secousse trop violente pour sa faiblesse. Que se passait-il donc autour de lui? Il ferma les yeux, comme s'il avait peur de regarder, et pendant plusieurs minutes, il demeura ainsi, ne parlant pas, remuant les lèvres, les yeux clos. Louis attendait avec anxiété. Enfin, le marquis releva la tête. « Laissons cela, dit-il, et n'en reparlons jamais. Ne nous occupons que de Denise. Elle ne veut pas être religieuse, eh bien, elle ne le sera pas. Tu l'aimes, elle t'aime, eh bien, elle sera ta femme. » « Ah, mon cousin !» s'écria Louis. Et, dans son transport de joie, se levant vivement, il vint serrer les deux mains du marquis. Celui-ci était bien faible pour supporter les émotions. Ses yeux s'emplirent de larmes. « J'ai toujours eu pour toi la plus vive amitié, dit-il, et tu sais combien ma tendresse pour Denise est grande. Je ne veux que votre bonheur. Si j'avais su la vérité, il y a longtemps qu'elle serait ta femme. » « Mais je vous l'ai dit. Tu m'as écrit que tu aimais Denise, mais je ne savais pas si Denise t'aimait. Je croyais qu'elle voulait être religieuse et je ne me reconnaissais pas le droit de peser sur sa vocation. Pourquoi, au lieu de m'écrire, n'es-tu pas venu me trouver en Italie? Nous nous serions expliqués et entendus. » « Vous me l'avez défendu. » « Jamais. » Je vous affirme, mon cousin, que vous m'avez défendu de la manière la plus formelle de vous voir. Je t'ai écrit que j'examinerai la question et que je me prononcerai plus tard. Je vous jure que vous m'avez défendu d'aller vous voir. J'ai oublié bien des choses ces derniers temps, mais tout ce qui vous touche, Denise et toi, je m'en souviens, et je t'affirme que je n'ai point écrit ni fait écrire une pareille lettre qui eût été une rupture. Je vous la montrerai et vous verrez si ces termes me permettaient de me présenter devant vous. Cependant, j'avoue que je l'aurais fait si, presque au même moment, Denise ne m'avait pas défendu d'intervenir auprès de vous. Enfin, voilà tout arrangé heureusement. Maintenant, tu vas t'occuper toi-même de la réunion d'un conseil de famille pour Denise et aussitôt les formalités accomplies, le mariage se fera. Seulement, jusque-là, je crois qu'il est bon que Denise reste au couvent, puisqu'elle ne peut pas habiter ici. Je vais écrire à l'abbé Guillemite pour qu'on la fasse revenir à Sainte-Rutilie, où nous l'irons voir. Quant à toi, je pense que tu ne persisteras pas dans ta résolution de ne pas venir à Rudemont.